l'étude des figures bibliques de Rachel et Léa. D'abord, peut-on les appeler des figures bibliques? C'est déjà une question. Elles dépassent de loin leur simple présence dans le texte biblique, puisqu'on les trouve dans toute l'histoire du judaïsme. Mais donc, c'est l'occasion, l'étude de ces figures-là, féminines, de voir comment, s'il y a une opposition, et comment elle a joué cette opposition entre la transmission de leur... la façon de transmettre le rapport à ces figures dans l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire, c'est-à-dire l'histoire savante, scolaire ou parascolaire, et l'histoire plutôt, et la tradition d'autre part. Il serait important de chercher qu'est-ce qui préparait la transfiguration de Léa et Rachel en appellation de Séphiroth. Et non pas seulement dans le but de rechercher des sources, c'est pas seulement un travail historique de rechercher les sources du texte, c'est pas ça qui est intéressant. Une fois qu'on a repéré tel midrash où il y a telle source, où Rachel est déjà pas seulement un personnage humain, mais déjà une envergure céleste, etc., une envergure supra-humaine, etc., on a fait que le tout début du travail. C'est pas ça qui est vraiment le plus intéressant. Voir qu'est-ce qui préparait dans le travail de la représentation du monde féminin, d'une part, et d'autre part dans le rapport concret aux femmes, aux filles, tel qu'il apparaît dans les textes, parce que on a des textes de cette époque, on n'a que des textes écrits par des hommes, à peu près, à quelques rarissimes exceptions près, en tout cas, pour ce qui concerne le judaïsme espagnol, et pas seulement d'ailleurs. Donc, on a un témoignage d'hommes sur le travail dans leur milieu, et pas seulement de n'importe quel homme, mais de lettrés, de savants qui connaissaient à fond la tradition, les midrashim, la littérature hébraïque, etc., la liturgie. Donc on a une tradition savante, bien que ce ne soit pas exactement la même chose que dans le christianisme, parce que ce n'est pas une tradition savante. Bon, Il y a ces particularités dont il faut absolument tenir compte. Mais disons qu'il y a quand même une représentation de Léa et Rachel par des hommes qui a fait que, dans un certain milieu, à certaines époques, ces figures-là ont été divinisées. Bon, en tout cas, bon, je dis divinisées, je vais peut-être un peu vite, en tout cas, sont devenues des séphirotes, ou identifiées à la Shekhina pour Rachel, par exemple. Qu'est-ce qui a préparé cela? Qu'est-ce qui a rendu possible? Comment c'était possible et pourquoi c'était, je ne dirais pas nécessaire, mais comment ça s'était déterminé par les dispositions de ces kabbalistes d'Espagne dans la société où ils vivaient? Qu'est-ce qui les préparait à... Qu'est-ce qui les mettait en état ou les poussait à faire ce type d'élaboration? Alors on peut trouver dans les textes des choses qui se rapportent à des sources, à des représentations préalables, plus anciennes. Mais une fois qu'on s'est demandé si avant la Kabbale, avant les kabbalistes, c'est-à-dire avant la moitié du XIIIe siècle, XIIe siècle, la fin du XIIe siècle, Léa et Rachel étaient déjà identifiées à la Shekhina, étaient déjà des figures plus ou moins divinisées. Une fois qu'on s'est posé la question, qu'on a trouvé tel ou tel texte, on n'a pas vraiment répondu à la question, puisque à la limite, même si on trouve un texte explicite dans un midrash particulier, qui lui-même identifie Rachel à la Shekhina explicitement, ce qui n'est pas le cas, enfin je n'en connais pas, mais même si c'était le cas, ça n'expliquerait rien, parce que il faudrait montrer que c'était toute la société juive, l'ensemble, qui se représentait Rachel comme ça. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est pas de voir qu'une source du Zohar a pu influencer le Zohar, ce qui est possible, des sources qui ont disparu, bon, mais c'est de voir, c'est de, à travers le texte du Zohar, d'essayer de percevoir comment l'auteur du Zohar, ou les auteurs du Zohar, se fait l'écho, dans son texte, des représentations vivantes, déjà en son temps. Et pas seulement dans quelques textes connus par quelques-uns, mais qui étaient déjà... C'était déjà à l'époque de l'auteur du Zohar, quel qu'il soit, Moïse de Léon, par exemple, c'était déjà des figures qui étaient... Si elles n'étaient pas identifiées à la Shekhina ou à des Séphirotes de façon explicite, elles avaient déjà un statut. C'était presque une évidence pour beaucoup. Je ne parle pas pour les savants, les lettrés, etc., mais au niveau collectif, que Rachel et Léa, c'était les mères fondatrices, les mères de toute la collectivité, et qu'elles avaient une importance, une élévation, un statut dans la hiérarchie, disons, des valeurs de la tradition, qui n'était pas loin de faire, qui était peut-être plus ou moins comparable à celle de Marie, par exemple, dans le christianisme de l'époque. Pourquoi Rachel et Léa particulièrement ? Quel était l'enjeu ? Nouvelle façon de commenter la Bible, c'est-à-dire de cette manière savante, de cette manière élaborée, qui se présentait comme un ésotérisme, quel était l'enjeu pour ces auteurs-là de fixer sur Rachel et Léa le maximum de puissance, le maximum de valorisation en tant que figure divine, plus que sur d'autres personnages féminins. En quoi ils percevaient, parce qu'autrement ils ne l'auraient pas fait, en quoi, ou en tout cas leurs écrits n'auraient pas eu d'écho, ce seraient des textes qu'on aurait depuis longtemps oubliés, en quoi ils percevaient forcément quelque part un besoin, et en même temps ils répondaient de façon élaborée, systématisée, à quelque chose qui existait dans les représentations collectives spontanées. Alors voilà, c'est une hypothèse, c'est difficile à savoir, on n'a pas beaucoup de témoignages, on n'a pas de documents de voyageurs qui rapportent, etc. On peut d'abord s'appuyer sur le culte marial, l'importance que revêt de plus en plus la figure de Marie, la féminisation de Jésus dans les couvents, par exemple, au niveau des monastères, des couvents, qu'il y a un marquage de plus en plus grand du féminin par rapport au divin. Comment cette ambiance, disons, de féminisation, même des personnages masculins, du texte biblique, dans le milieu chrétien, pouvait aussi avoir un écho. C'était même pas un écho, c'est pas une question d'influence, c'est simplement que on vit dans le même monde, même s'il n'y avait pas Internet à l'époque, même s'ils vivaient dans des sociétés différentes, politiquement, ils avaient un minimum de culture commune. Pas forcément une source, je ne parle pas de source. Ce n'est pas la question des sources. La question des sources est une question finalement qui est secondaire. Qu'on la trouve ou pas, ce n'est pas le plus important. Simplement, il y a un fait que dans un livre qui a eu un très grand écho, une très grande importance, qui a été accepté, considéré comme un livre, pas seulement accepté, mais pas seulement qu'il n'a pas été rejeté, mais qu'il a été considéré comme un livre saint, le Zohar à Kadosh, comme on dit. Dans un livre qui a eu un tel impact, parfois on l'a égalé à la Bible elle-même. Comment ça se fait que Rachel et Léa ont une si grande importance et sont identifiées à des séphirotes, et Rachel en particulier à la Shekhina, et ça fonctionne pas seulement dans le chapitre où on parle de Rachel, mais partout, d'un bout à l'autre du Zohar, et dans d'autres textes kabbalistiques aussi de l'époque. Alors ça, c'est un problème qu'il ne faut pas seulement prendre comme un problème textuel, c'est-à-dire parce que le Midrash en traitait comme ça, alors il a développé ce qu'avait commencé à faire Midrash, c'est vrai, mais ça ne répond pas à la question. C'est qu'il y avait un enjeu pour l'auteur de faire ça. Il s'est senti poussé, il a senti qu'il y avait un profit pour lui, pour son livre, pour son public, pour le développement de sa pensée, pour l'éclaircissement des figures elles-mêmes, pour fixer, pour préciser leur nature, qu'il y avait un enjeu qui n'était pas seulement littéraire ou poétique, mais un enjeu qui touchait, que les gens étaient touchés par cette identification, pouvaient être touchés, sensibilisés par cela, qu'ils étaient déjà sensibles, prêts à admettre, prêts à recevoir cela. Qu'est-ce qui les rendait prêts à admettre et à recevoir cela ? Il témoigne qu'il y avait une disposition de son public, parce qu'il n'écrivait pas tout seul, il adressait à un public qui existait au moment où il écrivait. Un texte ne peut pas être comme ça, arraché à son milieu, à son époque, aux gens auxquels il s'adresse, et aux gens qui l'écrivent, et au milieu qui le produit. Et donc, c'est qu'il y avait un enjeu, il faut repérer les enjeux de cette, à la fois de cette divinisation des figures féminines et de cette féminisation du divin à travers spécialement les figures de Rachel et de Léa. D'abord en étudiant de près le texte du Zohar, voilà où l'étude textuelle a son importance. Qu'est-ce qui est dans le texte ? Quels sont les points que l'auteur veut montrer ? Qu'est-ce qu'il veut montrer à travers telle ou telle identification, tel ou tel développement ? qu'est-ce qui lui importe de mettre en, au premier plan, de mettre en avant dans le jeu entre Rachel et Léa, entre Rachel et Léa comme mère d'Israël et en même temps, pas seulement comme mère appartenant au passé, mais comme figure maternelle qui continue à être les mères d'Israël. Est-ce qu'il y a par derrière l'idée qu'on peut encore, qu'on peut adresser des prières, qu'on peut s'adresser à Rachel et Léa? Est-ce que derrière le développement, derrière le commentaire du Zohar, par exemple, ou pas? Est-ce que c'est une chose qui n'apparaît absolument pas, qui n'est pas évoquée? Est-ce que c'est une façon de donner à une idée de Dieu un peu trop philosophique, telle que Maïmonide et la philosophie juive l'avaient mis en avant et avaient imposé déjà un peu avant cette époque? Est-ce que ce n'était pas une façon de chercher à redonner une concrétude à la figure divine, une présence physique à la divinité? Et par ailleurs, vis-à-vis de leur propre rapport au monde féminin, des hommes aux femmes, du rapport homme-femme à l'époque, qui est globalement, et depuis l'époque biblique, toujours un rapport clair de domination, où les femmes ont une situation particulière, où elles sont plus ou moins restreintes à un champ d'activité déterminé, etc. Est-ce que dans Rachel et Léa, comme mère, on retrouve ce même... Est-ce qu'on retrouve les représentations derrière tout ce qui est dit de Rachel et Léa, les représentations ou le système de hiérarchie, de domination qu'on trouve dans la société globale, la société juive de l'époque? Est-ce que c'est finalement une... Ou alors, ça bouscule ces représentations? Il y a plein de questions qu'il faut se poser. Et puis, qu'est-ce que ça nous apprend de Dieu? Non mais, ma question n'est absolument pas métaphysique. Je ne parle pas de Dieu en soi ou en lui-même ou des théologiens, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais qu'est-ce que ça nous apprend de Dieu comme réalité sociale? Qu'est-ce qui fait la réalité d'une chose? Les sociologues ont montré qu'il y a une identité, quasiment, une quasi-identité entre la réalité. Une chose est réelle quand on en parle. Une chose existe quand on en parle. Ce qui fait qu'une chose existe, que tel problème, tel phénomène, telle chose, la crise... Tel truc, l'identité noire, l'identité des banlieusards, l'identité des bourgeois, etc., la classe sociale, ça existe quand on en parle. C'est le fait d'en parler, avant d'en parler d'une certaine façon, que ça les fait exister, et que ça les fait exister d'une certaine façon. Donc, je parle du Dieu qui existe par ce que l'on. Et qui existe sous telle ou telle forme, parce qu'on en parle de telle ou telle façon, parce que la société en parle de telle ou telle façon. On peut revenir aux analyses de Durkheim à la fin de son livre Les formes élémentaires de la vie religieuse, où il identifie Dieu et la société. Pour lui, finalement, Dieu, c'est la société qui se représente elle-même comme un tout, comme une unité, qui se divinise en quelque sorte à travers l'idée de Dieu. Quel est l'enjeu social d'une représentation féminine de la divinité? Qu'est-ce que ça transforme par rapport au rapport que la société a d'elle-même? On peut prendre, par exemple, selon Boyarin, déjà, les rabbins du Talmud avaient montré que, avaient établi que la conduite idéale juive n'était pas la conduite héroïque du type zélote, combattant, etc., mais la conduite de type féminine. Rester à la maison, rester en exil, rester dans les quatre coudées de la halakha, comme dans les quatre murs de sa maison, pour accomplir sa tâche. Sans conquérir ou reconquérir ou contester ou se révolter, etc. C'était ce qu'il appelle la conduite non héroïque. Où il a encore d'autres termes, enfin, il montre que c'est. Bon. Est-ce que dans le Zohar, il n'y a pas une étape supplémentaire qui est franchie avec une. Non seulement une conduite semblable, qui est reprise, acceptée comme telle, mais en quelque sorte. Fortement intégré, parce que là on est encore plus soumis, je veux dire, à la communauté juive en Espagne au moment où écrivait Moïse de Léon, où le Zohar était écrit, était dans une situation de plus en plus difficile, de plus en plus persécutée, opprimée, etc. On avance vers la Reconquista, c'est achevé ou quasiment achevé, je ne sais plus, la conquête de Grenade quand elle a lieu. Bref, on est à une époque où les Juifs sont très menacés, fragilisés, où les communautés perdent un peu de leur autonomie. Il y a déjà eu la dispute de Barcelone, il y a déjà eu ils sont obligés d'accepter d'entendre les prêches, la prédication des moines, il y a les franciscains, les dominicains, etc., qui font une propagande de christianisation très très forte. Ils sont soumis à une pression religieuse et donc sociale pour la conversion très très forte. Est-ce que ce n'est pas aussi des éléments de résistance, des éléments de ressourcement, des barrières pour reconstituer une sorte de peuple idéal à travers la féminisation du divin et la divinisation des femmes fondatrices, des mères fondatrices de la nation. En se référant à Rachel et Léa comme figures divinisées ou divinisantes en même temps, la société juive, dans l'état où elle est, ne se reprend pas, ne se ressaisit pas, ne se redivinise pas. Rediviniser, ça veut dire, en l'occurrence, ne se réattribue pas, reconquiert pas d'une certaine façon une part de son autonomie. Je ne sais pas, est-ce que c'est en termes d'identité que Rachel et Léa sont un enjeu à l'époque? Est-ce que ça permet de revendiquer ou de... Est-ce que l'identité était menacée? Je ne sais pas. Ou alors, ce n'était pas l'identité, mais plutôt certaines croyances fondamentales. Le fait, par exemple, de... Parce que c'est une façon de ne pas se tourner vers le Messie, ou de donner un caractère féminin au Messie aussi. C'est-à-dire un caractère où le Messie est plutôt une figure d'origine qu'une figure... de destination, figure finale, puisque Rachel a une figure rédemptrice aussi. Le Messie est une figure féminine. Il est identifié à Rachel, le Messie maternel. Mais d'ailleurs, bon, on a d'autres figures. Par exemple, à l'époque, Mordechai, qui est quand même une figure masculine qui s'oppose à Esther, on le représente à certains moments comme allaitant Esther. Ah oui, des Midrashim qui décrivent Mordechai comme allaitant Esther. Il n'avait pas de parents, et qui a miracle s'est produit, et qu'il a allaité Esther. Ça ne fait pas échapper, c'est pas un instrument politique. C'est peut-être un instrument politique dans le fond, mais indirectement. Disons que peut-être que c'est une façon d'inscrire ou de situer dans le champ, dans l'arène, dans le champ de bataille auquel tout le monde participait d'une façon plus ou moins directe. Champ de bataille à la fois interne et externe. Champ de bataille entre le judaïsme populaire et le judaïsme philosophique, entre guillemets. Entre judaïsme et christianisme, est-ce que c'était pas une façon d'inscrire un enjeu essentiel, de marquer un point, de tirer un profit, de gagner une position, d'emporter une position, un bastion dans ce champ de bataille? Alors, il faut montrer quel enjeu, qu'est-ce que ça apporte comme gain, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce que la société juive a pu gagner à ce travail autour des figures de Rachel et de Léa. Et on peut étendre la question même jusqu'à aujourd'hui. Bon, est-ce qu'il y a encore un enjeu autour des figures de Rachel et de Léa? Visiblement oui, au moins au niveau très local, parce qu'il y a l'enjeu de la tombe de Rachel, qui peut être aussi un enjeu politique. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu qui continue, peut-être pas autour de Rachel et de Léa uniquement, mais au cours de certaines figures féminines, dont Rachel et Léa fournissent les matrices, fournissent les idéaux, les modèles, qui permet, par exemple, au public, à des femmes traditionnelles, traditionnalistes, religieuses, de défendre une part, de se défendre, de résister à la domination masculine. C'est un enjeu encore actuel. Alors pourquoi c'était un enjeu pour des hommes, parce que c'était pas quand même pas une femme qui a écrit le Zohar, de défendre et de donner cette importance? Voilà. En quoi les hommes étaient en position? Peut-être parce qu'ils étaient en position féminine, je ne sais pas. Mais pas par rapport aux femmes, visiblement. Vis-à-vis des hommes, peut-être vis-à-vis... Là, c'est une autre question très très importante. À l'intérieur même, sans parler du débat extérieur, enfin extérieur, qui traverse avec le christianisme, qui est certainement à jouer, pour le groupe d'intellectuels des kabbalistes, constitué par les kabbalistes à l'époque, c'était peut-être aussi un enjeu pour se positionner par rapport aux rabbins des communautés, aux chefs des communautés, plus ou moins influencés par Maïmonide, ou en tout cas aux autorités halakhiques, vis-à-vis desquelles ils étaient en position de concurrence. Pas sur le même terrain, ils essayaient de se situer sur un autre terrain que le leur, sur un terrain qu'ils appelaient le sod, c'est-à-dire à la fois le terrain le plus essentiel, le plus important, où il disait que c'était là que les choses tout se passaient, et en même temps qui était marginal par rapport aux décisions de la halakha qui allait décider du sort et de la vie quotidienne, à la fois du sort collectif et de la vie quotidienne des individus, et puis qui réglait les problèmes concrets qui se posaient tous les jours. Donc c'était peut-être un enjeu aussi pour eux de donner à ces figures marginales de Rachel et Léa par rapport à des figures masculines, chez Rabbeinu, les grandes, Yosef HaTzadik, etc. Voilà, un terrain qui était un peu laissé à l'abandon par les autorités halachiques, rabbiniques dominantes, par les autorités dominantes, par l'institution. C'est aussi à l'encontre, mais pas à l'encontre directe. C'est une façon d'affronter l'institution, comment dirais-je, en déployant un nouveau champ de bataille, en amenant le débat sur un nouveau champ de bataille, en amenant les questions, en ramenant l'attention, en attirant l'attention sur en développant un nouveau champ où un nouvel enjeu allait être mis en circulation. Et pourquoi ça a marché? Pourquoi ça a marché? À quel besoin ça répondait? Pourquoi c'était si important que cet enjeu-là soit placé sur le champ de concurrence entre les acteurs, entre les agents de l'institution d'un côté, et puis les intellectuels libres, entre guillemets, qui n'étaient pas dépendants d'une institution synagogale, etc. Enfin, qui n'avaient pas d'autorité ni dépendants directement d'une institution synagogale, comme les kabbalistes. Pourquoi c'est sur des figures de femmes que ça a pu porter, que ça a été très important? Parce que les figures d'hommes étaient déjà très investies, étaient déjà surinvestis. Ils les ont investis aussi, mais ils n'avaient pas apporté quelque chose de finalement tellement nouveau, tellement radicalement original. Disons que à la fois une nouveauté, un champ qu'ils investissent, qu'ils cultivent, qu'ils labourent, un champ laissé en friche, et puis en même temps un champ qui existait, il était laissé en friche, mais il existait dans la religion populaire, il existait dans les représentations, dans les bénédictions, dans les représentations. Alors, le Midrash, à mon avis, intègre des traditions populaires qu'il essaye d'encadrer dans les limites de l'enseignement institutionnel, d'une institution. Qu'il essaye, plus ou moins, pas de façon absolument stricte, ça dépend des époques, ça dépend des Midrashim, qui ont la trace d'une plus ou moins grande force de cet encadrement. De manière générale, on peut dire que le Midrash et le Targum reflètent de façon plus ou moins complète, plus ou moins libre, enfin plus ou moins fidèle, disons, les traditions, les légendes, la mythologie, mais pas au sens savant, hein, les représentations collectives, les traditions qu'on se transmet de mère en fille ou de mère en fils, et que les pères connaissent, mais qu'ils ne jugent pas utile de transmettre, ou que les rabbins ne jugent pas utile de transmettre, parce qu'ils sont déjà connus. Ce sont des évidences, et ce n'est pas des choses très importantes, c'est des on-dits, des croyances, des anecdotes, voilà, des coutumes, des traditions, des folklores. On n'enseigne pas le folklore à l'école. La religion juive est une religion d'école, beaucoup plus que le christianisme à l'époque, puisque les juifs, contrairement aux chrétiens, je parle de tous les juifs, de tout le peuple juif, en tout cas en Espagne, ils savaient lire et écrire. Ils avaient, même ceux qui n'étaient pas les grands, des savants, des lettrés, des auteurs de livres, etc., ils avaient une culture de base très très importante. C'est en commune mesure avec la culture de base du paysan d'Aragon, qui était analphabète. Il avait une culture importante, déjà de base, même s'il n'était pas... Donc, il avait une culture scolaire aussi. Il y avait une culture scolaire, même si ce n'était pas des écoles comme aujourd'hui, etc. Il y avait une institution scolaire à sa façon. Un message, mais un message consistant, un savoir élaboré avec des règles d'études, d'interprétation, etc. Bon, qui était suivi avec plus ou moins de... On allait plus ou moins loin dans les études, mais il y avait déjà un chemin, et puis il y avait un enseignement de base, quoi. Une alphabétisation assez importante, et tout le monde connaissait la Bible. Tous les enfants d'Espagne, les enfants juifs d'Espagne, connaissaient la Bible de Bereshit jusqu'à, je veux dire, Rachel, Moshe, tous les personnages... Les histoires de la Bible, ils savaient lire, si, ils savaient lire. Ah, peut-être que les filles n'avaient pas d'instruction scolaire. Voilà, c'est ça la question. A priori, il me semble, à ma connaissance, autant qu'on peut le savoir, ils n'avaient pas forcément d'instruction scolaire. Mais ils pouvaient avoir une instruction qu'ils acquéraient à la maison. Mais il y a des cas quand même, on a des lettres, on a quelques éléments qui montrent qu'elles savaient quand même lire et écrire. Qu'elles n'étaient pas totalement analphabètes. Non, à mon avis, elles devaient avoir reçu, ne serait-ce qu'à la maison, un enseignement... primaire, savoir lire, écrire, compter de base, mais c'était pas un enseignement scolaire, c'était pas un enseignement d'école, c'était un savoir-faire, une pratique de la lecture, une pratique, un enseignement pratique. Disons, il y avait le ladino, elle parlait, il y avait des textes dans la. Bon, théoriquement, l'araméen c'était fait pour ça, à l'époque, déjà à la fin de l'Antiquité, pour que les gens qui savent pas l'hébreu parlent, comprennent la Bible dans leur langue, parce qu'ils parlaient l'araméen. Donc c'était comme si on traduisait la Bible en anglais, enfin en anglais, en français, en. Mais en Espagne, il y avait certainement des traductions en judéo-espagnol, dans la langue vernaculaire. Mais ça, il faudrait voir ça de près. En tout cas, c'est certain, de toute façon, que même si elles avaient une culture de base, un savoir scolaire très élémentaire, il était incomparablement plus élémentaire, plus faible que celui des garçons. Et donc, l'essentiel de leur savoir, c'était un savoir oral, une transmission non scolaire. Et donc, dans la transmission non scolaire, il y a une forme de transmission de la tradition qui passe autrement. Il y a une autre forme de tradition qui est transmise. Dans le christianisme, il n'y avait qu'une forme de tradition, d'enseignement, de transmission. C'était à l'église, il n'y avait pas d'enseignement scolaire, sauf pour les lettrés, pour quelques-uns évidemment, mais je parle du gros, je parle des masses, de la société en général. Puis il y avait l'imagerie, les sculptures, etc. Mais dans les cas des communautés juives, il y avait au moins deux formes de transmission. Une transmission scolaire, très marquée, avec des étapes déjà, la Torah, la Mishnah, et puis, enfin, il y avait tout un cursus qui était déjà très élaboré, transmission scolaire, et puis une transmission non scolaire. Transmission scolaire passant essentiellement par le biais des hommes, père, fils, ou maître, élève, ou rabbin, et école, élève. Et ça transpirait, certainement. Peut-être qu'ils ne racontaient pas tout. Peut-être que les filles aussi allaient au cours. Il y avait des cours de Talmud Torah pour les filles. Il faut voir ça. En tout cas, certainement qu'elles n'étaient pas complètement analphabètes. C'est plus que probable. Elles fréquentaient la synagogue. Ça, c'est sûr. On a des enluminures de manuscrits qui montrent des femmes entrant dans la synagogue, etc. Mais elles suivaient la liturgie. La Torah est souvent comparée à une femme dans le Zohar. Très clairement, très distinctement. Donc, ça m'étonnerait beaucoup que si la Torah est comparée à une femme, que les femmes étaient laissées dans l'ignorance, étaient totalement ignorantes de toute de la Torah, ça savaient ni lire ni écrire. Ça aurait été un trop grand scandale que la Torah soit représentée comme une femme, alors que les femmes ne savent même pas lire une lettre de la Torah. Oui, c'est vrai. Mais je sais pas, j'ai du mal à l'imaginer. Bon, il faudrait voir. Seulement des historiens ont écrit des choses là-dessus, peut-être. Peut-être que Maurice Kriegel, je sais pas, dans son livre, il en parle. Je me souviens pas très bien. Mais il y a d'autres textes. J'ai un livre sur le Moyen-Âge, un gros bouquin là. Bon, il doit y avoir des articles peut-être là-dessus, ou d'autres choses. Mais c'est certain que la sagesse, et peut-être que les femmes avaient, peut-être pas dans tous les milieux, peut-être que dans les milieux les plus aisés, il y avait des précepteurs, des enseignements qui venaient enseigner aux filles les arts, certainement à lire et à écrire, et puis connaissances diverses. Il n'y a pas que les femmes qui sont mises au premier plan, il y a aussi les enfants qui sont mis en avant dans le Zohar. Il y a les âniers, les conducteurs d'ânes, les humbles, qui sont pas les maîtres dans la société, les dominés en avant. Et ça, ils sont mis en avant parce que lui-même, l'auteur du Zohar, était dans un groupe qui était dominé. Mais un groupe qui cherchait à être dominant. Ils étaient les dominés des dominants, en quelque sorte. Et des hommes intellectuels, donc une certaine forme d'autorité, mais très faible. Et ils étaient les dominés des dominants, mais ils essayaient donc de contester ou de prendre une certaine place, de contester ou de grignoter des parts d'audience, des parts d'autorité, des parts de prestige, des parts d'honorabilité, ça c'est très important l'honneur, des parts d'honorabilité vis-à-vis des autorités, des maîtres reconnus, des autorités rabbiniques, des institutions dirigeantes. Donc pour ça, ils mettaient en avant aussi les dominés, les âniers, les enfants et les femmes. Et dans cette stratégie, on met en avant les dominés pour montrer que les dominés les plus bas dans l'échelle sociale peuvent être aussi des grands sages, des prophètes, délivrer des enseignements extraordinaires ou être des personnages remarquables, etc. Les figures féminines, en particulier de Rachel et de Léa, ont pris une place extraordinaire, puisque c'est plus seulement les femmes de leur mari, la femme de Jacob ou les femmes de Jacob, mais elles avaient une autonomie, elles avaient une propre identité très importante. Et donc, c'était aussi une façon de se représenter ou de raconter simplement l'histoire réelle ou symbolique, de raconter le récit fondateur de la nation, juive en particulier, en mettant en avant comme fondement des figures féminines, des figures de dominés, des figures secondaires, qui sont secondarisées en tout cas. Il faisait un coup double, à la fois par rapport au texte biblique, il mettait en avant des personnages qui étaient importants, mais qui n'étaient pas... Ils n'occupaient pas une telle place. Donc, au niveau de l'exégèse, ils apparaissent comme des novateurs. Et puis, en même temps, ils mettaient leur propre statut de dominé en position d'être valorisé. Ce n'était pas pour baisser les dominants. Ce n'était pas pour... dans le but... Non, ils n'ont pas négligé. Ils parlent aussi de Jacob et d'Abraham de façon très, très importante. Ce n'est pas du tout qu'ils ont négligé Abraham, Yitzhak, Jacob, etc. Mais c'était l'enjeu, c'était pas de dire qu'Abraham était important, ça on le savait déjà, mais c'était de dire que Rachel et Léa sont pas seulement importantes, mais par elles, eh bien, c'est du destin d'Israël et du destin de la communauté d'Israël, à la fois comme degré dans le monde divin, la Shekhina, dont il s'agit. Léa, on peut pas, je veux dire, elle est dans le texte biblique, on peut pas l'effacer, d'une part, parce que Léa est une figure cachée, le Zohar lui-même le dit. C'est une figure retirée, c'est la Bina, elle est cachée, donc on en parle moins. C'est à la fois une façon de dire qu'elle est plus importante que Rachel parce qu'elle se situe plus haut dans l'échelon des Séphirot, dans l'échelle des Séphirot, et en même temps de dire qu'elle se situe certes très haut, donc elle est une figure super importante, mais comme elle est très haut, elle est très cachée, donc on a moins besoin, on en parle moins, forcément. Elle est moins présente. Même si elle est théoriquement plus importante, pratiquement, elle passe inaperçue. Il n'y a pas une vision de Léa. On a très peu, il y a des visions de Rachel, la Shekhina sous la forme de Rachel, etc. On évoque Rachel, mais il n'y a pas de vision de Léa. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de tourner les yeux vers Rachel et d'accentuer le regard sur Rachel, l'intérêt, le souci sur Rachel, une fois qu'on a dit que Léa était très haute et très importante. C'est pas cynique, mais ça fonctionne comme ça. Oui, mais qu'est-ce que c'est qu'un acte pur ? Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un acte pur ? Est-ce que les agents, quand ils décident, quand ils font telle chose, mettre Rachel à tel rang, Léa à tel rang, est-ce que même s'ils font des actes purs dans leurs propres pensées, dans leurs intentions, est-ce qu'ils font vraiment des actes purs ? Ils sont déterminés à... Ça, c'est le problème de la lecture du texte. Est-ce qu'on va avoir une lecture naïve du texte ? Ou alors, on va essayer de... Non pas avoir une lecture cynique, mais stratégique. C'est-à-dire, à quelle stratégie, consciente ou inconsciente, à demi-consciente ou à moitié inconsciente, à quelle stratégie obéit le positionnement de Léa à tel échelon et le positionnement de Rachel à tel échelon. À quelle stratégie sociale ça obéit. C'est-à-dire que c'est un postulat général que toute élaboration intellectuelle, littéraire, etc., n'est pas seulement un acte pur de la pensée, ou la science pour la science, l'art pour l'art, l'exégèse pour l'exégèse, mais, comme il s'adresse à un certain public, et il part d'une certaine situation concrète, des conditions concrètes de celui qui écrit, ça obéit à une certaine logique, à un certain déterminisme. Et si c'est une œuvre vraiment consistante, si c'est pas bon des écrits qui n'ont pas d'écho et des écrits personnels, ça obéit à une stratégie qui a une orientation. Ça vise à déplacer, à modifier certaines choses dans l'environnement, dans le paysage social. Ça vise à déplacer, à modifier certaines choses dans l'environnement, dans le paysage social. Ça vise à prendre position et à déplacer des positions. Ouvrir un champ de bataille à côté du champ de bataille sanctionné, consacré de la halakha, d'ouvrir du judaïsme de l'institution, ouvrir un nouveau champ, en même temps, à initier et à inviter ou à tirer parti d'une représentation collective non écrite, d'une représentation collective spontanée, à moitié exprimée, balbutiée, que la société a balbutiée sans l'exprimer, et de l'exprimer, et de la dire. De dire une chose, que Rachel c'est la Shekhina, de dire une chose qui était avant seulement balbutiée, seulement bredouillée. Dans le Midrash, dans le truc, on en a quelques témoignages. Voilà. Et c'est cette puissance de dire quelque chose. Et pourquoi ça a été dit ? Bon, pour des raisons qu'on peut... On a commencé à essayer sur lesquels on a commencé à essayer de réfléchir, quand ça a été dit que ça devient une réalité, et que ça pèse sous son poids de réalité. Alors qu'avant, c'est une réalité virtuelle. Rachel, avant le Zohar, était la Shekhina déjà, mais virtuellement. À partir du Zohar ou d'autres textes kabbalistiques qui l'ont précédé, mais le Zohar l'a inscrit socialement et de façon très ouverte, elle devient une réalité pas seulement virtuelle. Non, c'est pas mettre en avant ce qui est caché, ce qui est dominé. C'est pas caché. Non, c'est des choses différentes. C'est pas à l'ombre, c'est dominé. Rachel, par rapport à Léa, est une figure. Est-ce qu'elle est... C'est quand même Léa qui enfante le plus par rapport à Rachel. Rachel, elle n'engendre que deux enfants. Elle est la plus aimée. Elle est la cadette. Elle n'a pas la position dominante dans sa famille. Elle est la cadette. C'est la cadette qui est la plus aimée par Jacob. Et c'est Léa qui, même si elle est mal aimée par Jacob, c'est quand même elle qui survit à sa sœur. Et surtout, qui est la première épouse de Jacob. C'est elle qui engendre concrètement le plus d'enfants. La mère d'Israël, c'est vraiment Léa. Rachel, elle a engendré directement deux enfants. Alors, c'est ses servantes qui ont engendré Yosef et Binyamin. C'est quand même Léa qui enfante Yehuda, le lignée messianique. Et le peuple juif, c'est Yehuda, c'est les descendants de Juda. Donc tout était fait dans le texte pour secondariser, enfin, pour faire de Rachel un personnage, bon, qui est important, parce qu'elle est là, mais elle n'a pas déterminé le destin, comme Léa. Rachel est a plus d'importance symbolique, beaucoup plus, déjà dans le texte biblique, et par la suite, même dans les prophètes. C'est Rachel qui pleure ses enfants, et c'est pas Léa. Pourtant, les enfants, c'est les enfants de Léa. Non, c'est important que Rachel soit la cadette, de même que Jacob, de même que ce sont les cadets qui prennent la succession, comme Yitzhak, comme Esav et Yitzhak, par exemple. Jacob et Esaü et Esav, ou Ishmaël et Yitzhak. Mais c'est Rachel qui se fait aussi, qui vole à son père les choses et c'est elle qui prend des initiatives. Elle est beaucoup plus active que Léa. Elle est très active, elle conteste l'ordre établi. Elle est tout le temps en train de contester comme ça l'ordre établi. Elle n'accepte pas les choses comme elles sont. D'ailleurs, le Midrash le voit très clairement déjà dans le Midrash sur les Lamentations. Rachel conteste les décisions de Dieu, etc. Elle se bagarre jusqu'au bout. C'est une figure un peu de femme révoltée, féministe, entre guillemets, un peu. Et puis c'est elle aussi qui se débrouille avec Rachel, avec Léa, pour l'échange des signes, etc. Faire toute cette... C'est elle qui intervient dans la situation et qui l'active, qui la change. C'est elle qui va au devant qui reçoit Jacob quand il arrive comme ça. Léa, c'est la figure de la femme à la maison, de la femme qui reste sous la tente. D'ailleurs, c'est dit d'expulsion dans le Zohar, je crois. Qui reste dans les quatre un peu en réserve, réservée, qui enfante, qui engendre, mais sans sortir dehors. Tandis que Rachel, c'est la petite sauvage. C'est Manon des sources, entre guillemets, les Avdil. Rachel, elle est un peu la figure, c'est la figure de la brebis. Aussi. Rachel, ça veut dire une brebis, je crois. Et la brebis, c'est toujours la brebis égarée. La brebis, c'est aussi c'est l'animal qui le représente. C'est pas le mouton. C'est l'animal qui va toujours, qui est dans le troupeau, et puis qui va à gauche, qui va à droite, qui se met à s'égayer comme ça dans la nature, à aller voir à gauche et à droite. C'est une figure instable. Une figure de un personnage assez instable. Et puis, elle n'est pas très féconde. C'est pas la mère immobile qui enfante comme les reines, des abeilles sans bouger, immobiles, comme ça qui enfante. Puis on dit qu'elle meurt en accouchant de Benjamin parce qu'elle avait la matrice étroite, c'est-à-dire qu'elle était mince. C'est pas le paradigme de la mère représentée comme ça dans les grottes dans la préhistoire, pour d'exemple là, comme étant des énormes déesses quoi. Puis c'est la mère des enfants les plus jeunes de Jacob, des cadets, des super cadets, enfin des deux derniers, la mère de Joseph, qui va être expulsée par les autres tribus.
Après tout ça, on peut comprendre pourquoi le Zohar l'a mis
ouais.
plus important.
Ouais.
C'est cohérent avec tout ce que
ouais.
tu viens de dire.
Ouais.
C'est pas très cohérent avec l'histoire populaire.
Bah si, parce qu'il y a quand même une chose que l'histoire populaire aime bien, c'est qu'elle est la bien-aimée de Jacob. C'est le roman d'amour entre Jacob et Rachel. C'est pas le seul paradigme. Léa aussi est le paradigme de la mère. Mais c'est la mère, c'est la grand-mère, si j'ose dire. C'est la mère qu'on peut oublier. Elle n'est pas immédiatement la mère. Elle est la mère comme origine. Comme origine, tandis que Rachel est beaucoup plus la mère comme protectrice. Pas protectrice passive, mais comme protectrice active. C'est pour ça qu'elle est la Shekhina. Elle se déplace. Elle va où vont ses enfants. Elle est en exil avec eux. Elle n'attend pas leur retour. Peut-être même, d'une certaine façon, avec cette façon de se représenter Rachel, Rachel devient presque le paradigme d'Israël lui-même. C'est Israël qui se représente lui-même, sa propre histoire, à travers la figure de Rachel. La bien-aimée de Jacob, mais qui est dans une situation de domination, oui, qui peut changer le cours du chose. Parce qu'elle n'est pas seulement... Peut-être qu'à travers Rachel, les Juifs ont pu, en tout cas à l'époque en Espagne, mais à part la suite aussi, conquérir une image idéalisée d'eux-mêmes, à la fois féminine, donc soumise, dominée, mais capable de dire non, de se révolter, de conserver et de prendre l'initiative, de s'accepter ou de se résigner à la fois à une situation féminine, mais en même temps, en choisissant dans cette façon, pas n'importe quelle figure féminine de révolte active. Disons même, ça c'est dans le Zohar sur les Lamentations, dit que avant l'exil, la Shekhina, quand Dieu voulait punir Israël, la Shekhina se levait, elle recevait les coups à la place d'Israël. Si, c'est explicitement dans le Zohar sur Echa. La Shekhina qui est dans ce passage, qui est identifiée à Rachel. ou Rachel plutôt, qui est identifiée à la Shekhina. Elle reçoit des coups, elle fait du catch, elle fait de la boxe. Rachel, c'est une femme catcheur, boxeur, enfin, je rigole, mais... Oui, exactement, comme Israël, exactement. D'endurer le martyr et de refuser le destin de martyr, de lutter pour changer le destin. Elle obtient quelque chose. Elle ne se résigne pas comme les autres patriarches, comme tout le monde. Elle ne se résigne pas. On parle de Rachel et de Léa comme si on les avait rencontrés dans la rue. Mais ce sont des mots qui se réfèrent à des façons d'être, à des comportements. Et ce sont deux manières d'être qui sont, en fait, qui visent la même chose, qui ont le même but, même si ces façons d'être semblent opposées l'une à l'autre. Et bien toujours cette stratégie de déjouer la domination comme fatalité, comme déterminisme et comme fatalité. Léa comme Rachel, mais aussi Léa.
Oui, bien sûr que Léa, quand même, dans le Zohar, c'est clairement, et c'est dit aussi à Midrash Rabba, que pourquoi Rachel était enterrée sur le chemin et pas Léa, mais Léa à côté de Jacob. Parce que Léa a fait quelque chose toute sa vie pour essayer d'avoir Jacob. Elle est sortie sur le Emader, sur le Parta Drachim, pour pleurer que Esav ne soit pas son mari, mais plutôt Jacob. Donc elle était active, tandis que Rachel n'a rien fait. Elle était belle, tout ça, aimée, tout était dû comme ça. Et c'est pour ça que c'est Léa, c'est dit dans les Zohar texto, c'est pour ça que Léa est enterrée près de Jacob, parce qu'elle a fait quelque chose. C'est complètement, donc c'est vraiment changer un sort, c'est très important. Un sort auprès de transgresserait une loi qui est dans Vaïchra 18 quand même.
Donc ce sont des personnages, l'une et l'autre, chacune à sa façon, d'une façon différente, sont des personnages très actifs et qui ne sont pas du tout des représentations de type Mater Dolorosa, comme la représentation de Marie, la Vierge Marie, qui est totalement passive, qui est la mère qui souffre, point. Mais Sarah aussi n'a pas été totalement passive, de toute façon. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi Rachel et Léa ont transpercé le récit pour devenir des personnes, des figures, des représentations religieuses, des représentations personnelles du rapport au divin et du rapport à la communauté d'Israël. C'est pas seulement des personnages importants qui jouent tel ou tel rôle, mais ce sont aussi des nœuds dans un réseau de représentation du divin où elles ont une place déterminante. Bon, la réponse principale, c'est que on est juste là à la génération des patriarches qui précède la naissance d'Israël comme peuple. En tout cas, à mon avis, pour votre DEA, il est important de considérer le texte comme la surface d'inscription, comme le texte du Zohar, je veux dire, en particulier, comme une très bonne, très réceptive surface d'inscription de conflits, de concurrences, d'enjeux qui se situaient dans l'état des champs de domination, des champs de la société juive de l'époque. Pour le dire un peu autrement, ou pour le dire sous forme de question, qu'est-ce que, dans le traitement que le Zohar fait de Léa et de Rachel, personnage biblique qui apparaît dans quelques chapitres, qu'est-ce que ça nous apprend de l'état du champ religieux de la société juive de l'époque, et des enjeux et des conflits et des internes et externes par rapport aux chrétiens, par rapport à l'intérieur par rapport à la situation des kabbalistes, etc. Oui, parce que aucune œuvre, mais ça vous pouvez trouver des analyses de Bourdieu très intéressantes dans son livre sur l'œuvre d'art. Bon, il montre que une œuvre d'art, aussi quelle qu'elle soit, n'est pas seulement une œuvre d'art, c'est-à-dire l'art en soi, mais est aussi traversée par les enjeux du champ dans lequel du champ littéraire, comme c'est bon, pictural ou dans lequel elle apparaît. Non, bien sûr, elle ne se réduit pas à ça. Elle ne se réduit pas à ça. On peut pas. C'est à vous de le dire et de le déterminer. C'est à vous de voir. Il faut ramener le plus de choses possible à cela. Essayez de ramener le plus de choses possible à cela, en prenant d'autres exemples, en prenant ce texte. Le texte nous en apprend assez, je crois, pour esquisser, ce ne peut être qu'une esquisse parce qu'on n'a pas d'autres éléments, une histoire sociale, des rapports de domination dans le judaïsme espagnol du XIIIe siècle. Et au-delà, il a servi de point de repère, il a servi de base à d'autres, à des enjeux similaires, à d'autres époques et dans d'autres endroits. Et il l'est toujours. Maintenant, il y a aussi les figures de Rachel et de Léa, indépendamment du Zohar. Même des gens qui n'ont jamais entendu parler du Zohar et qui peuvent parler de Rachel et de Léa. pouvez interviewer en Israël ou en France. Ce n'est pas le plus important de savoir si leurs idées viennent directement du Zohar, indirectement du Zohar, ou est sans rapport avec le Zohar. De toute façon, le Zohar, c'est pas une œuvre isolée comme ça. Il est à la fois le miroir et il rayonne sur toute la société, pas seulement de son temps, mais du futur aussi. Enfin, futur qui est pour nous le passé, qui est pour nous contemporain. Et donc, même si on peut pas toujours repérer qu'un tel élément vient du Zohar, parfois on peut. Parfois c'est une allusion, les gens ne se rendent pas compte, mais ils citent le Zohar sans se rendre compte. Ça arrive même assez souvent. Mais même s'ils ne se rendent pas compte, même s'il n'y a pas de lien direct, le Zohar a travaillé le champ des représentations, le champ religieux du judaïsme suffisamment, je veux dire, en profondeur, depuis 700 ans quand même, pour qu'il ait eu le temps largement de le transformer ou de l'investir d'une manière ou d'une autre. Et peu importe que ça vienne ou pas, et peu importe qu'on puisse repérer clairement ou pas une source dans le Zohar. Ce qui importe, c'est pas l'histoire du Zohar, pas le Zohar lui-même. C'est le livre en tant qu'il a des lecteurs, et des transmetteurs. Pas seulement des transmetteurs au sens des gens qui l'ont transmis en l'enseignant, mais des transmetteurs au sens où il y a une société, où il y a un peuple, où il y a un ensemble de personnes qui se rattachaient à une société, à une histoire, à une tradition, qui ont continué à le considérer comme un livre central, un livre important, et à le transmettre. Alors, est-ce qu'on peut se poser la question? Est-ce que c'est le Zohar qui a changé, qui a modifié la société, ou c'est la société qui a produit le Zohar? Parce que c'est aussi la société juive, c'est aussi 1300 ans, si on commence l'histoire à moins 1300, on peut le commencer à l'autre moment, mais c'est, je sais pas, 1000 ans ou 1300 ans d'histoire juive qui ont produit le Zohar. Donc c'est la société juive elle-même qui a produit le Zohar. Et elle s'est reproduite à travers le Zohar. Mais c'est vrai que quand il a été rédigé par quelqu'un, à un moment particulier, dans un état particulier du système, et pour des raisons particulières, il a à son tour rejailli et fait bouger des choses. Il y a une interaction entre la société, d'où une œuvre centrale, une œuvre d'intérêt national, entre guillemets, une œuvre d'importance collective, et l'histoire de cette société. Enfin, il y a une interaction entre les deux.
Il faut d'abord montrer votre débat, ou simplement dire, ce qui est presque une banalité, mais il faut le rappeler cette banalité, que la société juive, que ce soit de l'époque, pas seulement de l'époque, mais en particulier de l'époque en Espagne, que les gens étaient pas seulement contemporains de leur histoire, de l'histoire des Espagnols à l'époque, mais c'est contemporains de l'époque biblique, contemporains de l'époque du Talmud. Ils vivaient en compagnie de Rabbi Shimon ben Yochai, en compagnie de Rabbi Akiba, compagnie de Rachel et Léa. Ils vivaient en leur compagnie. Même s'ils n'étaient pas présents physiquement, ils vivaient en leur compagnie. Et que donc, connaître ces textes, situer ces textes, les citer, les mentionner, les étudier, c'est déjà étudier la société de l'époque. Ou avoir les bases indispensables pour toute étude sérieuse de la société de l'époque. Et ensuite, montrer comment le Zohar en particulier, compte tenu de cette situation, a retravaillé ces traditions, pourquoi il les a retravaillées comme ça, quels étaient les enjeux de ce travail, comment il a, quoi, en insistant sur telle figure, et comment, etc. Bon, et puis quel effet ça a pu produire. Alors oui, annoncer des effets, et développer, voilà, mais déjà les ouvrir dans un dernier paragraphe, un dernier chapitre. Bon, il y a le livre de, bon, ça. Mais pour les femmes, c'est intéressant d'en savoir un peu plus. Il faut voir ce qui existe. Je ne sais pas. Il n'y a peut-être pas, rien. Il n'y a peut-être pas grand-chose. Hein. À mon avis, il ne doit pas y avoir grand-chose. Hein. Je pense que vous devriez interviewer Colette Sira. Même si elle n'a pas écrit, même si elle n'a pas... Elle a des idées là-dessus, peut-être. Il y a Volson qui a écrit des choses aussi sur le phallocentrisme du Zohar, etc. Il a toute une thèse là-dessus. Mais bon, ce n'est pas très historique. Oui, c'est ça. Particulier, oui. Ou Erasing veut Erasure, ou un truc comme ça. Enfin, des trucs bizarres. Mais bon, c'est intéressant.
Mais voilà, je pas.
Bon, selon Volson, toutes les figures, même féminines, sont des figures phalliques.
Oui.
Figures masculines. Bon. Mais ça, c'est bon, il a un point de vue très psychanalytique. Mm. Lacanienne, psychanalytique. Pas le point de vue intéressant, le point de vue psychanalytique. Faire la psychanalyse de l'auteur du Zohar, ça n'a vraiment aucun intérêt. Déjà, faire la psychanalyse de gens vivants aujourd'hui, c'est pas forcément très intéressant. Mm. Faire la psychanalyse des gens qui vivaient il y a 1300 ans, 1700 ans. Par contre, la psychanalyse, entre guillemets, c'est-à-dire la socio-analyse de la communauté juive de l'époque, est autrement plus importante. Il y a autrement plus d'enjeux. La socio-analyse, c'est l'analyse sociale, l'analyse de la société. C'est un terme qui imite un peu la psychanalyse, on dit socio-analyse. Un terme très employé en France, dans l'école de Bourdieu. D'ailleurs, j'ai vu que Bourdieu citait Scholem
au début de son livre. Oui, 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 oui. Parole dite. Et Scholem m'a dit que, etc. Oui, oui. Oui, ils se connaissaient bien tous les deux. Un peu plus loin dans son texte, il développe l'idée que la sociologie est une science ésotérique. Il définit exactement la sociologie comme Scholem définit la Kabbale. C'est très étonnant. Ah oui. Et je suis sûr, il ne le dit pas explicitement, qu'il s'est beaucoup inspiré des années de Scholem dans son approche de la sociologie. Mais dans le cas de la sociologie, c'est vrai. Dans le cas de la Kabbale, ça l'est moins, certainement. L'analyse de Scholem est plus vraie pour la sociologie qu'elle ne l'est vraie pour la Kabbale. Il se méfiait de la sociologie. Oui, la sociologie, il voulait expliquer par le shabbatianisme, par d'autres voies que la sociologie ou l'histoire sociale, en se référant aux événements religieux en soi, comme ça. Mais en fait, il fait de l'histoire sociale. C'est le paradoxe de son... C'est vrai que, bon... C'est-à-dire, bon, il y a... Parce qu'il n'avait affaire, c'est vrai, que la sociologie allemande ou américaine, qui est très positiviste, ce qu'on appelle la hard sociologie, c'est-à-dire la sociologie calculatrice, qui fait des statistiques et des calculs. C'est la sociologie bête.